VOA Afrique, les infos. À Washington, Jacques Aristide.
Il est 16h à Ouagadougou, 17h à Brazzaville. Ravi de vous retrouver pour ce tour d'horizon de l'actualité en ce vendredi 10 juillet 2015. L'ouverture du dialogue national sur l'avenir des institutions en République du Congo a été reportée au lundi 13 juillet, loin de Brazzaville. D'après un décret présidentiel que cite l'AFP, ce forum politique que l'opposition soupçonne de n'avoir d'autre but que d'ouvrir la voie à un changement de constitution pour permettre au président Denis Sassou Nguesso de se représenter en 2016, devait avoir lieu initialement du 11 au 15 juillet. Le décret ne fournit aucune explication sur ce changement de calendrier ni sur le choix du lieu pour la tenue de ces assises. Sibiti, capitale de la Lékoumou, est située à environ 250 km à l'ouest de Brazzaville. Monsieur Sassou cumule plus de 30 ans à la tête de l'État et la Constitution lui interdit de briguer un nouveau mandat. Le Parlement rwandais débattra mardi prochain du lancement d'une procédure de révision constitutionnelle réclamée par près de 4 millions de pétitionnaires rwandais et visant à supprimer la limitation du nombre de mandats présidentiels et permettre au président Paul Kagame de se représenter en 2017. Nombre d'observateurs doutent toutefois de la spontanéité de cet engouement d'après l'AFP. Et y voit la main des autorités dans un pays sans véritable opposition où l'hégémonique front patriotique rwandais mené par Paul Kagame est parti au pouvoir depuis 1994 et présent à tous les échelons de la société. D'après la constitution rwandaise, une révision constitutionnelle peut être proposée par le président de la République ou par un vote des deux tiers des députés ou des sénateurs, à l'exception du Parti démocratique vert, petite formation d'opposition qui a déposé un recours devant la Cour suprême pour empêcher le Parlement d'entamer le processus de révision. L'ensemble de la classe politique rwandaise s'est dit favorable à cette réforme. La fièvre Ebola était toujours présente au Libéria. Pourtant, la fin de l'épidémie avait été proclamée en mai. Camille Gros-Didier.
Le Libéria avait été officiellement déclaré exempt du virus de la fièvre hémorragique à Ebola le 9 mai, soit 42 jours ou deux fois la durée maximale d'incubation, après l'enterrement le 28 mars du dernier cas connu. Mais vendredi, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré sur la base de nouvelles analyses que l'Ebola n'avait jamais vraiment disparu du pays. Les résultats montrent que le virus qui a fait de nouvelles victimes récemment est très proche de celui qui circulait dans ce secteur du Libéria, a déclaré Tariq Jasarevich, porte-parole de l'OMS, confirmant les premières analyses génétiques obtenues par l'agence Reuters.
Le président burkinabé Michel Kafando a désigné un groupe de sages afin de décrisper la tension sociale au Burkina Faso, où une crise oppose depuis une dizaine de jours le premier ministre Isaac Zida à la garde présidentielle qui réclame sa démission. Le président attendait une réaction officielle, le pays du moins, une réaction officielle publique du chef de l'État, ancien diplomate, et notamment qu'il tranche le litige en faveur d'une des deux parties, ce qu'il n'a pas fait. Il a par contre demandé à des sages de promouvoir la décrispation de la tension sociale actuelle en privilégiant l'unité et la cohésion de l'armée, de même que la poursuite du processus de transition vers des élections apaisées en octobre. En Ouganda, les deux principaux adversaires du président Yoweri Museveni à la présidentielle de 2016 ont été libérés sans être inculpés, d'après l'AFP. Les précisions de Félix Yepassi Zembro.
Deux responsables de l'opposition ougandaise, adversaires déclarés du président Yoweri Museveni à la présidentielle, ont été libérés tard dans la soirée de jeudi après avoir été détenus plusieurs heures par la police pour avoir tenté d'organiser des meetings électoraux sans autorisation. L'ancien premier ministre Amama Mbabazi ainsi que Kizza Besigye, l'une des principales figures du parti d'opposition Forum pour le changement démocratique, FDC, avait été arrêté jeudi alors qu'il s'apprêtait à participer à des rassemblements politiques, rappelle l'AFP. La police ougandaise a averti à plusieurs reprises que les rassemblements politiques sans autorisation ne seraient pas tolérés. Les organisateurs doivent soumettre tous les détails d'un rassemblement à la police 3 jours au moins avant sa tenue. Yoweri Museveni est accusé par ses opposants de vouloir s'accrocher à un pouvoir qu'il détient depuis 1986.
Le Comité international de la Croix-Rouge, consterné par la mort de plus d'une dizaine de personnes au Soudan du Sud suite aux affrontements qui ont forcé les médecins et le personnel infirmier à évacuer un hôpital alors même que des interventions chirurgicales étaient en cours. Dans la matinée du dimanche 5 juillet, un hôpital de l'État du Haut-Nil a été pris entre des tirs violents à Kodok, faisant 2 morts, dont 1 patient et 11 blessés, précise le CICR dans un communiqué. L'hôpital a subi des dommages matériels. Le personnel médical a quitté l'hôpital dimanche en l'absence de chirurgien. 11 autres patients sont morts depuis. 40 de blessés sont arrivés à l'hôpital et nécessitent une prise en charge urgente. Mais l'insécurité empêche le personnel médical de reprendre le travail, ajoute le CICR.
VOA Afrique en direct de Washington.
Jacques Aristide avec vous. Nous poursuivons ce journal et pour parler sur le nucléaire iranien entre Téhéran et 6 grandes puissances dont les États-Unis vont continuer demain à Vienne en Autriche au-delà de la date butoir d'aujourd'hui d'après l'AFP face à la lenteur de ces négociations qui visent à limiter les ambitions nucléaires de l'Iran en échange de la levée des sanctions internationales contre Téhéran. Les autorités américaines ne cachent pas leur impatience. Chez Rumeur d'Orsil.
Dans la capitale autrichienne, le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré hier jeudi que si les décisions difficiles ne sont pas prises dans la discussion sur le nucléaire iranien, les négociateurs sont prêts à mettre fin à ce processus. La Maison-Blanche a fait écho à cette déclaration en disant que le président Barack Obama ramènerait de Vienne les négociateurs américains si les discussions ne semblent pas être constructives. Dans l'autre camp, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a dit qu'il est prêt à rester à la table des négociations aussi longtemps qu'il le faudra pour aboutir à un accord avec les puissances mondiales sur le programme nucléaire contesté de son pays.
Ici même, aux États-Unis, la Caroline du Sud a retiré ce vendredi de son Parlement le controversé drapeau confédéré, emblème des soldats du Sud pendant la guerre de sécession, mais symbole de racisme pour beaucoup d'Américains. Une décision provoquée par une tuerie dans une église africaine-américaine. Des centaines de personnes réunies près du Parlement local à Columbia, la capitale de cet État, ont accompagné la descente du drapeau par des cris de joie et en chantant USA, d'après l'AFP. Ce retrait est un signe de bonne volonté et de cicatrisation des blessures, ainsi qu'une étape décisive vers un avenir meilleur, a aussitôt tweeté Barack Obama, premier président noir des États-Unis. La décision de retirer ce drapeau controversé, validée cette semaine par les 2 chambres du Parlement local, a été prise près de 3 semaines après le massacre de 9 Africains-Américains dans une église à Charleston, dont l'auteur avait brandi la bannière et justifié son geste par sa haine des Noirs. Après le drame, la polémique autour de ce drapeau a enflé aux États-Unis au point que plusieurs distributeurs américains ont annoncé qu'ils ne vendraient plus de produits floqués de l'emblème. Toujours aux États-Unis, ce ne sont pas 4,2 millions de personnes qui ont été touchées par le piratage d'une base de données du gouvernement, mais 21,5 millions de personnes, y compris des conjoints ou des enfants de fonctionnaires fédéraux. Le piratage des employés de la fonction publique américaine se révèle donc d'une ampleur inattendue. Le gouvernement a annoncé cela et alors que les hackers avaient dérobé les informations personnelles de 21,5 millions de personnes. Les données dérobées portent sur leur éventuel antécédent judiciaire, mais également sur leur santé, leurs finances ou leur famille. Également dans l'actualité, la crise de la dette grecque. Le Parlement de ce pays se réunit aujourd'hui pour décider s'il va endosser les propositions de réforme économique soumises par Athènes. Et puis, l'acteur égyptien Omar Sharif est décédé ce vendredi au Caire à l'âge de 83 ans. Il était devenu célèbre grâce à David Lean, qu'il avait révélé dans Laurence d'Arabie et consacré dans le docteur Jivago, faisant de lui une vedette internationale des années 1960. Né Michel Chaloub le 10 avril 1932 à Alexandrie, dans une famille de négociants en bois précieux d'origine syro-libanaise, il est élevé dans le rite grec catholique melkite. Et voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité. Je vous retrouve dans 50 minutes pour un autre point. C'était Jacques Aristide à Washington. À tout à l'heure. Take care.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.